Imaginons si chacun, vous, moi, refusions simplement de manger de la viande d'un animal qui a subi des sévices. Eh bien, aucun éleveur n'aurait plus intérêt à ces pratiques, avouez. S'abstenir tout simplement, surtout quand le législateur européen se montre ces temps-ci plutôt favorable aux animaux. Alexandrine Civard-Racinet a justement mis au point un dictionnaire horrifié de la souffrance animale, un véritable abécédaire, non pas pour nous torturer à plaisir, ô nous âmes très sensibles, car c'est fou ce que l'on ne soupçonne pas, mais pour savoir exactement et avoir le goût de s'abstenir d'alimenter un système parfaitement odieux. Un abécédaire que ce dictionnaire horrifié de la souffrance animale qui se glisse aisément dans la poche et qu'après tout l'on peut très bien prêter à son voisin de table, Alexandrine Civard-Racinet.
Ça va vous aider à digérer, Pascal, mais il s'agit moins d'ouvrir la bouche que de s'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les yeux sur une réalité dérangeante, une réalité perturbante, qui est celle des conditions dans lesquelles les animaux, qui effectivement terminent pour certains dans nos assiettes, vivent, sont élevés et meurent, bien entendu. C'est une réalité perturbante, mais à laquelle on doit se confronter si effectivement on veut pouvoir, pas forcément manger sereinement, mais dormir sereinement.
Alors si vous avez pris la peine d'écrire cet ouvrage, c'est parce que c'est une réalité qui est extrêmement répandue, c'est même la loi du genre, avant que les aliments ne parviennent dans notre assiette.
L'idée est venue non pas en mangeant, mais en conversant avec une éditrice, Sophie Closet, qui est éditrice à Fayard, et puis avec un philosophe, Dominique Lestet, que certains de vos auditeurs connaissent sans doute, qui est l'auteur entre autres d'Apologie du carnivore. Un titre bien mordant, bien saignant, qui est un philosophe qui interroge les rapports entre l'homme et l'animal. Il était en train de débattre de l'actualité de l'animal-machine. Alors, c'est une thèse qui est née au XVIIe siècle, que l'on retrouve dans la bouche ou dans la pensée de Descartes, qui a été reprise par Malebranche, et qui prétend que l'animal n'est rien d'autre qu'une machine un petit peu perfectionnée, une machine qui a une langue, des yeux, des oreilles, c'est à peu près tout ce qui le différencie de la machine. C'est à peu près tout ce qui différencie l'animal de la machine. Et notre interlocutrice de se récrier, mais ça n'est pas possible, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus considérer les animaux comme tels. Parce qu'évidemment, si on considère l'animal comme une machine, on peut également le traiter comme tel. Et c'est ça qui pose problème et qui va être source de dérive et de douleur ou de souffrance pour l'animal, ce dont il est question dans mon ouvrage. Et donc, notre éditrice se récrier. Non, ça n'est pas possible.
Ça veut dire que chez Fayard, on pensait que quand même le traitement des animaux était un peu plus correct.
On ne voulait pas y croire, comme tout un chacun. Cette jeune femme, Sophie, était comme vous et moi, Pascal, et comme vos auditeurs, qui effectivement soit méconnaissent, ignorent ou refusent d'aller vers cette réalité. Donc en fait, ce dictionnaire de la souffrance animale a été pensé, donc dictionnaire horrifié de la souffrance animale, à contre-courant des dictionnaires amoureux, parce qu'il ne s'agit pas de choquer, mais de perturber, de secouer un petit peu, a été pensé comme un dictionnaire qui allait effectivement mettre en avant un certain nombre de situations précises à travers des entrées comme abattage, soins, alors soins c'est un euphémisme, piqûre, castration, mais aussi zoophilie, donc c'est un dictionnaire de A à Z qui traverse trois champs, le champ de l'élevage, donc les conditions dans lesquelles sont élevés, transportés, abattus, donc l'élevage industriel, je précise bien, l'expérimentation animale et tous les loisirs dans le cadre desquels des animaux sont exploités, utilisés, exhibés. Donc vous voyez que c'est relativement large et beaucoup plus large que la question de la manière dont les animaux que nous mangeons sont élevés.
Voilà, donc ce n'est pas du tout la carte du tendre. Est-ce que vous avez des exemples en tête ?
Il y a plein d'exemples, on n'aurait pas le temps de les détailler tous, mais une de ces aberrations, par exemple, c'est le fait qu'on va couper à titre préventif la queue du petit cochon, donc ça c'est dans le cadre de l'élevage industriel intensif. Ce petit cochon, il faut imaginer qu'il a été séparé très très tôt de sa mère. D'ailleurs, quand on parle de mère, c'est un doux euphémisme parce que ces animaux n'ont plus la possibilité d'exprimer une relation basique qui est celle de la relation mère-enfant. Il faut imaginer la truie qui est bloquée dans une petite loge qu'on appelle loge individuelle. Là encore, c'est un doux euphémisme, un adoucissement de la réalité puisque donc il s'agit d'une cage de fer de 70 cm de large sur 2 mètres de long dans laquelle la truie est insérée. Elle a juste la possibilité d'offrir cette étine à sa portée trop nombreuse de petits cochons, sachant qu'il y a toujours des cochons surnuméraires et pas de tétines de rab, parce que là encore, la fée génétique est passée par là, et qu'on a des truies hyper prolifiques qui mettent au monde plus de petits qu'elles n'ont de tétines. Alors il y a ceux qu'on arrache à leur mère, et puis il y a tous les autres qui vont être sevrés précocement. Ensuite, ces petits cochons, donc, ils sont mis à l'engraissement pour notre consommation future. Et donc, c'est là qu'on va trouver une des aberrations dont il est question, donc à la lettre codophagie, c'est comme codophagie, c'est-à-dire la propension qu'ont les petits cochons à se manger la queue. Mais alors, c'est une propension qu'on trouve que dans les élevages industriels et ces bâtiments d'engraissement. Et un autre petit cochon qui, dans le vide de sa case, le vide sidéral de sa case, n'aurait d'autres solutions ou d'autres tentations que de grignoter la queue de son congénère. Je précise qu'en élevage de plein air ou en élevage bio, ce type de pratique est relativement rare, ce type de dérive plutôt est relativement rare. Il y a très très peu de codophagie, donc d'actes d'agression envers un congénère, donc jusqu'à manger sa queue. Voilà. Donc dans les élevages industriels, on coupe à titre préventif la queue du petit cochon. Mais si le cochon était mis effectivement dans des conditions non pas optimales mais normales et avait la possibilité d'exprimer librement ses comportements et de pouvoir aussi éviter ses congénères, ce type de situation ne se présenterait pas. Donc c'est ubuesque, anormal et évitable, et on peut l'éviter.
C'est vraiment porter l'animal à la barbarie en le faisant souffrir. Il y a un mot que vous employez souvent, c'est euphémisme.
Oui, parce que c'est agaçant, ça montre aussi cette manière qu'on a tous de se cacher derrière notre petit doigt, de se cacher aussi derrière des mots, et des mots qui ne reflètent en rien la réalité de ce qu'endurent les animaux, pour nous ou à cause de nous. Donc euphémisme, effectivement, cette volonté d'adoucir une réalité qui est absolument insupportable. Donc quand on parle de soins, par exemple, les soins apportés notamment aux porcelets ou à tous les animaux d'élevage, en fait de soins, pour l'essentiel, ce sont des piqûres, ce sont des injections, ce sont des actes qui sont relativement intrusifs, relativement agressifs, pour certains causes de douleur qui ont toutes été mesurées, évaluées, notamment par l'INRA, qui font consensus. C'est-à-dire, on n'est pas là dans le domaine de la sensiblerie, on n'est pas là, j'essaie de raison garder et d'humour un petit peu garder. C'est pour ça que ce dictionnaire est accessible à tous, parce que j'ai voulu, pour me protéger moi et aussi pour protéger le lecteur, essayer de manier un petit peu l'humour, et je me suis vraiment attardée sur des situations vraiment ubuesques en les dénonçant d'une certaine manière, et puis aussi en expliquant, pour notre salut à tous, ce qui peut se faire, quelles sont les méthodes alternatives qui existent, quand elles existent, et ce qui se fait aussi parfois à l'étranger. S'agissant de la castration des porcs, par exemple, il y a des pays qui ont réussi à supprimer cet acte. Je pense à la Suisse, par exemple, qui pratique l'immunocastration, un vaccin, donc un moindre mâle, deux piqûres, deux injections destinées aux porcs mâles, qui est une alternative quand même beaucoup plus douce à la castration manu militari, sans anesthésie. Je précise aussi qu'en Suisse, cette castration, quand elle existe encore de cette manière, est faite avec anesthésie, donc ce qui n'est pas le cas en France.
Oui, dans ce qu'on appelle le soin, c'est souvent une véritable torture, mais on peut faire différemment. Est-ce qu'on pourrait faire différemment, par exemple, pour les poules, qui en l'occurrence sont plutôt logées dans des cages à lapins, et même moins que ça?
Alors les poules, effectivement, sont logées à mauvaise enseigne, à mauvaise adresse. Elles disposent en tout et pour tout de l'équivalent d'une feuille A4 pour se mouvoir. Et là encore, mouvoir, c'est un euphémisme, puisque dans ces systèmes d'élevage et dans ce type de cage, elles ne peuvent pas même étendre leurs ailes. Alors effectivement, ça, c'est dans le système industriel. Dans le système d'élevage plein air ou label rouge ou bio, elle dispose d'un accès plein air permanent. Alors, donc ça, pour le consommateur, c'est très très facile et on peut très facilement agir. Il suffit, lorsqu'on achète nos œufs, de bien regarder le code, et uniquement le code, donc qui est sur l'œuf. Donc il faut prendre la peine d'ouvrir la boîte de l'œuf et de regarder le code qui est apposé sur cet œuf. 0 égale élevage biologique, 1 élevage plein air, 2 élevage en bâtiment, donc ça on évite. Donc bâtiments, elles sont au sol, pas dans une cage, mais grosse concentration et situation anaturelle. Et puis la troisième qu'il faut idéalement refusé, ce sont les élevages industriels, les élevages en cage dans lesquels donc les poules ne disposent que de l'équivalent de cette feuille A4. Alors effectivement, donc on peut agir. 0-1, élevage plein air. Dans ce type de situation, effectivement, les poules ont accès au plein air en permanence, à leur convenance, et ça change tout quand même pour la poule et aussi pour le consommateur qui peut, se faisant donc agir, influer sur les modes d'élevage. Donc par son acte de consommation, il agit directement sur le mode d'élevage. Et in fine, il a aussi, il faut aussi le préciser, un produit beaucoup plus simple, ou pas de produit antibiotique, sauf à titre curatif par exemple, on ne va pas en utiliser à titre préventif. Donc autant de molécules qui ont moins de chances de se retrouver dans tous ces organismes que nous mangeons et qui in fine se retrouvent dans notre propre organisme en bout de chaîne, nous qui sommes un super prédateur en haut de la chaîne alimentaire.
Voilà, donc il est quand même facile de compter jusqu'à 3, hein. Ça s'apprend alors qu'on est tout petit, et puis il est facile de comprendre que l'on est un petit peu ce que l'on mange, donc autant ne pas faire forcément souffrir les animaux. Descartes était quand même un homme intelligent. La souffrance des animaux est reconnue depuis peu. Comment est-ce qu'on peut appréhender la souffrance animale ?
C'est finalement assez facile d'appréhender la souffrance animale, du moins à travers toute la documentation qui nous est proposée. On peut se rapprocher des associations de protection animale, on peut aussi regarder ce que propose l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique.
Qui est conservateur, on le sait, donc si eux reconnaissent, ça veut dire que vraiment il y a souffrance animale.
Voilà, c'est ça. On ne peut pas dire effectivement qu'ils soient pionniers en la matière, sauf certains chercheurs, Jocelyne Porcher par exemple. Mais effectivement, on ne peut pas dire que ce sont des grands pionniers en la matière. Donc, lorsqu'on regarde ce qu'ils ont pu produire, on tombe sur le plus petit dénominateur commun. Et là-dessus, donc, ce sont des choses qui font consensus, qui ne font aucun doute. Et on n'est pas dans le domaine de la sensiblerie, on n'est pas dans le domaine de l'intox, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se fonder. Et puis, effectivement, si on veut aller plus loin, on regarde du côté des associations de consommateurs, des associations de défense animale, et on trouve sur la toile toute une série effectivement d'éléments de compréhension. Il faut trier évidemment le bon grain de livret, comme pour tout sujet, mais on trouve, toute cette documentation est accessible. Le problème, c'est qu'on ne veut pas voir, donc c'est pourquoi mon dictionnaire horrifié de la souffrance animale avait d'abord pour vocation d'ouvrir les yeux, d'introduire la discussion, de nourrir la réflexion, plus j'espère que ce qu'un steak peut faire, donc nourrir la réflexion de nos concitoyens, et j'ai moi-même beaucoup appris en travaillant sur ce sujet.
Chaque année en France, ce sont 1 milliard d'animaux qui sont abattus pour notre consommation alimentaire. Nous consommons 87 kilos de viande par an et par habitant. Le dictionnaire horrifié de la souffrance animale, c'est aux éditions Fayard et c'est par Alexandrine Sivard-Racinet.